intitulé ce texte « Déambulation du volcan » autour de « Au-dessous du volcan » de Malcolm Lowry. Et je voudrais dédier ce texte à Frédéric Yves Janet, qui est un magnifique écrivain et sans doute le plus grand amoureux des amoureux du volcan, sous lequel il s'est établi depuis 30 années. Aujourd'hui que les genres meurent, écrit Bernard Noël en 1976, dans deux pages de préface à l'édition de Pour l'amour de mourir, poème de Malcolm Lowry aux éditions de La Différence. J'avais oublié que Bernard Noël avait écrit un jour sur Malcolm Lowry, pour lui. Aujourd'hui que les genres meurent, il reste ce creux et ce plein, les lignes creuses du poème, les lignes pleines du roman. Un grand prosateur se met à écrire des poèmes, pourquoi ? Des hasards s'entrechoquent et s'emboîtent, les transformant en signes. Je termine d'écrire autour des entretiens de Bernard Noël avec Alain Weinstein, paru aux éditions de La Mourier. J'ouvre le livre de Malcolm Lowry dans l'intention de faire ce texte pour la Sorbonne. Le volcan, sombre comme la tombe, Gabriola et quelques autres sont sur ma table de travail. Je pars à Marseille et La Mourier me demande alors de co-animer une rencontre avec Bernard Noël à Coaraz, village du haut pays niçois. Je décide d'ouvrir notre rencontre sur cette citation « Un grand prosateur se met à écrire des poèmes, pourquoi ?» Le visage de Bernard marque l'étonnement, il avait oublié avoir écrit cette préface. Mais n'écrit-on pas davantage avec l'oubli qu'avec la mémoire ? Écrire ne saurait plus se satisfaire de ressembler à ce souvenir. Écrire veut maintenant faire fuser l'oubli qui n'est pas fléché comme la mémoire, dit-il. Un jour, quelqu'un fera une préface à un livre de Bernard Noël et écrira « Un grand poète se met à écrire de la prose. Pourquoi ?» Bernard ne répond pas à la question qu'il a posée alors. Pourquoi demeure une arête verticale dans la chair du volcan ? Pourquoi n'ai-je pas prétendu au moins les avoir lues, ces lettres ? Et pourquoi n'ai-je pas expédié un télégramme ou un mot tout de suite ? Ah, pourquoi ? Demande le consul. La question demeure question. Si on répondait aux questions en écrivant, on n'écrirait plus. Il y a assez de lieux où l'on nous apporte des réponses, non ? Que l'on continue à s'étrangler sur ces arêtes que sont les questions, la langue, la poésie, la prose, est absolument nécessaire. Pardon, je vous ai déjà égaré, mais de qui veut-elle parler, Bernard Noël ou Malcolm Lowry ? Je vais parler de Malcolm Lowry, ou plutôt de ce que les livres nous font, comment ils nous égarent et nous ravissent, comment ils nous ravissent et nous rendent à nous-mêmes. Pour moi, cela commença par Bernard Noël à 15 ans. Cela continua par Malcolm Lowry à 20, et quelques autres, bien sûr, en cette période de découverte ardente de la littérature, Loewenstein, Lumière d'août, Mrs. Dalloway, Guerre et Paix, Marelle, notamment. Malcolm Lowry est simplement celui que je trimballe depuis bientôt 40 ans. Le grand foutoir de Lowry, comme dit Patrick Deville. Trimballé, mot chaotique. Trivial, concret, sonore surtout, comme le volcan. Je dirais le volcan. Pour moi, c'est le volcan. Comme pour d'autres, parmi les aficionados, ce que Maurice Nadeau appelle l'étrange confrérie. Je me trimballe avec le volcan depuis toujours. Trimballé, emporté avec soi, sans soin particulier, comme on se trimballe soi-même en fait. Voyage chaotique de la vie. J'ai plusieurs exemplaires du volcan. J'ai perdu le premier. Mais j'ai toujours le deuxième que j'ai failli perdre et que j'ai retrouvé, je vous raconte un peu plus loin. La couverture du premier est ornée d'un dessin de Jean Clavery, un flacon en verre avec un paysage mescalisé, la racine d'une dent fracturée, une dent paysage, arbre, eau, enfin liquide, et soleil pâle. C'est celui-là que j'ai égaré, et depuis j'en ai racheté un exemplaire que je garde dans mon abri du sud chez ma famille de cœur et qui est sur ma table à Marseille alors que j'écris ce texte. L'autre, le deuxième, le plus usé par lecture et autres trimballements géographiques, est resté dans ma maison de Fontenay-sous-Bois. Car un jour d'urgence où je devais absolument ouvrir le volcan et où je ne le trouvais plus, prêté, perdu, quien le savait, j'en ai acheté un deuxième à la librairie la plus proche. Je me souviens m'être énervée. L'image de couverture était devenue une photo du film de John Huston, sorti en 1984. J'ai toujours détesté que la grandeur d'un livre soit une valeur ajoutée, souvent un supplément d'âme offert par le cinéma. J'ai peut-être tort. Si le film offre des lecteurs à Laurie, tant mieux, mais j'en doute. Le cinéma facilite, le livre exige de nous. Du moins ce livre, et souvent les romans. À la hauteur de cette exigence et l'ivresse de la lecture, il y a des exceptions. Satan Tango, par exemple. Bellatar impose 7h30 de cinéma. Le roman de Laszlo Krasznahorkai perce le film. J'ai vu le film de John Huston, évidemment. J'ai oublié. Je ne pouvais pas l'aimer, même si Albert Finet. Mémoire. Le film fixait trop les choses, lieux, personnages, paysages, mouvements. Arrêtait la course en moi que provoquait le livre, ses incessants déplacements physiques et temporels, course à la catastrophe, tournoiement, plongée dans l'ivresse et la phrase. Phrase ivresse, perte des repères. Comment, dans un livre, on plonge en suspendant le temps, la logique. Comment on peut, des heures plus tard, sortir la tête de l'eau ou du mezcal et être toujours entière, peut-être pas intacte, mais entière, avoir connu le fond sans s'être noyé. Le temps d'un film nous est compté, nous est contraint. Le film n'ouvrait pas d'abîme, figurait trop, définitisait, ou comment dire. Je me méfie de mon rejet quand on a lu le roman. Peut-on accepter qu'on nous en donne l'image, la vision? À Marseille, je loue le film et le revois. Finet, grandiose, le plus bel alcoolique du cinéma avec Jenna Rollins pour Opening Night. Et du plaisir, mais pas celui du roman. Je confirme, c'est une question de temps. Durant les 17 premières minutes, Huston condense les symboles, affiche du film les mains d'Orlac, chien, vierge de la solitude, beuverie du consul, phrase emblématique, no se puede vivir cinema. C'est trop. Au lieu du vertige par écho différé, on a l'empilement calculé. On voit ce qui ne doit pas être visible. Seul l'invisible nous saisit durablement. Huston Finet touche cependant quelque chose du consul, de son entêtement à s'enfermer. L'enfer à ma préférence, c'est mon lieu naturel, je choisis l'enfer, dit-il. Le plus difficile finalement est de représenter Yvonne. Avec Hugues dans le film, ils sont périphériques. À part la scène d'ouverture, magnifique. Yvonne apparaît à la porte de la cantine. Le consul se retourne vers elle une fois, deux fois, trois fois, tout en continuant la description de son prétendu crime sur le navire SS Samaritan, où il embarqua jeune homme. A-t-il vu Yvonne? Prend-il cette apparition pour une hallucination? Ou bien, gagnant du temps à raconter, passe-t-il en revue tout ce qu'il veut dire à Yvonne, tout ce qu'il doit lui dire pour regagner son amour, tout ce qu'il ne lui dira pas? À part cette scène déchirante, tout entière portée par le consul, la dévastation de l'amour ne prend pas dans le film. Je me dis qu'Yvonne ne peut être qu'absente. Seul le manque nourrit le consul et le roman. Belle Jacqueline Bisset qui n'a rien à jouer. Huston n'a pas réussi son film, il est allé trop vite en tout. Il est resté à la surface quand le volcan est une longue chute. Ce que j'ai aimé insensément à la lecture du volcan, c'est me perdre et perdre la notion du temps. Les grands livres offrent cette descente en soi sans limite, un hors-sol qui est en même temps le lieu de l'être. Donc, j'y reviens, à me trimballer sans cesse le volcan, à me dire qu'un jour, j'écrirai le retour d'Yvonne. Yvonne revenant, peut-être même des années après. Une Yvonne qui ne serait pas morte, qui revisiterait le pays dévasté de l'amour. Une femme dont les lettres mêmes n'ont pas été lues, dont l'amour était aussi puissant et déchiré que l'entreprise de destruction du consul. J'ai toujours pensé qu'Yvonne n'avait pas besoin de mourir. Yvonne incarne l'amour et l'amour est impossible. No se puede vivir sin amar et le consul laisse les lettres dans la cantine, son lieu d'oubli existentiel. Il ne peut tracer sa route, conduire son destin qu'à partir de cet oubli. Yvonne, donc, ne meurt pas. Elle revient et écrit l'histoire de l'amour impossible. C'est impossible à partir duquel on écrit. Elle a récupéré les lettres que le consul trimballe sur lui dans la poche de sa veste à l'endroit de son cœur. Lettres mortes de n'être pas lues. Le corps d'Yvonne, l'amour d'Yvonne est dans les lettres. Yvonne revient et écrit une lettre ininterrompue d'amour au consul. Un rêve que je caresse d'écrire un jour. Trimballer donc. Qui viendrait de brimballer, trinque-baller, employé par Rabelais. Trinque-baller, peut-on mieux dire pour l'ivresse du volcan? Littérature, lieu de l'être, lieu d'être, creux de soi, noyau dur, ce qui ne s'explique pas, ce dont l'énigme demeure entière, le volcan. Lire, relire, ne jamais savoir, demeurer hanté, continuer à lire, continuer à descendre dans l'obscurité qui nous fonde, où va la littérature. Laurie est perdu dans une histoire qu'il ne cesse d'inventer. Il voudrait bien s'arrêter, arrêter cette perdition. Seulement, l'histoire, c'est sa propre vie. Je ne parle pas d'autofiction. Je dis que l'histoire du livre, c'est sa propre vie. Je dis que la littérature, c'est notre propre vie. Lorsque je visitais la Bise, un matin froid de mars, je fus aimantée par ses entrailles. À la beauté impérieuse des salles de lecture, à la majesté du hall, de la cour, les caves voûtées me figurèrent un refuge. Normalement, je déteste les sous-sols, les grottes. Mais ici, je me sentais libre et curieusement attirée par les petites salles qui s'ouvraient sans cesse à ma gauche, à ma droite, au détour de coudes et couloirs. Pleines de meubles anciens comme roues de navire qu'on tourne pour obtenir les traces des livres, leurs fiches de renseignements, leurs identités. Identités sans préjudice d'époque, de nationalité, d'appartenance sexuelle. Je suis sensible à ces choses. Les livres m'ont toujours été un gîte, un repère, A-I-R-E. Dans les salles de lecture, surtout la plus grande, la plus belle, l'architecture imposante éclipsait les livres. Je n'ai jamais pu travailler en bibliothèque, ni y lire. Et longtemps, je n'ai pas pu emprunter de livres. Je suis venue à la littérature par la bande, sans autorisation et sans assurance, par effraction, avec le sentiment de voler un trésor qui ne m'était pas promis. Quand on y vient de cette façon, les livres doivent vous appartenir. Emprunter, c'est mettre le vêtement d'un autre et ne pas le salir. Non que je salisse les livres, sauf par accident, dont les plus courants sont l'eau du bain et le thé. Je déteste tout autant les cornets et même en briser la tranche. Elles ne se brisent qu'à force de relecture ou par la mauvaise qualité de certains assemblages de colle. Bref, les livres, je voulais les avoir, les garder, les posséder. À l'adolescence, période de lecture débridée, j'achetais mes livres quand je le pouvais ou je les voulais. C'est à cet âge que j'ai rencontré un livre de Bernard Noël, Le Château de Seine, édition de 1975, Jean-Jacques Pauvert, sur la table d'une librairie. Happée, je l'ai lu, sidérée et heureuse. Ce qui se passe entre un livre et vous n'est pas partageable. Ce qui se passe entre un livre et vous est un saisissement. Avec ce livre, mon corps tremblait et ma tête galopait. Aujourd'hui, je l'ouvre à nouveau et voici comment elle commence. La lune émergeait de la mer. La suite de la phrase n'appartient qu'à Bernard Noël, mais la lune et la mer pourraient être un début de poème de Malcolm Lowry. En feuilletant le livre, j'y découvre des phrases soulignées au stylo bleu, comme il en était de mon premier livre du volcan où j'avais souligné fiévreusement des lignes entières d'une encre violette, la même qui marqua le journal d'Anaïs Nin. Cela, je ne le fais plus. Je mets des marques au crayon dans les pages. Mais à l'époque, je n'avais pas ces précautions. Le livre m'appartenait. Je soulignais de ma propre main mon propre corps. Et donc, lors de cette visite des entrailles de l'abysse, nous passons à un moment par le pilon, le lieu de disparition des livres, autant dire l'enfer. Ouvrages abîmés aux pages manquantes, à l'état délabré, des étagères de livres. Mon œil se pose alors sur un petit poche à la couverture pâle, rien qui force le regard. Under the Volcano. Je le prends, je le feuillette, couverture écornée, quelques phrases soulignées, je me mets aussitôt en état de lecture. J'ai déjà un exemplaire du volcan en anglais et un autre en espagnol à la maison. Je le tiens dans mes mains, incapable de le renvoyer au pilon, on me l'offre gentiment, on m'offre de le sauver. Bien sûr, je le prends, je le sauve, ça ne se discute pas. Je ne sais pas alors sur quel livre je vais écrire. Dans cette forêt de symboles que sont les livres, il m'a fait signe, il m'a brûlé la main. Le retour du volcan, un de ses multiples retours, de ses incessantes apparitions. Je feins d'ignorer le signe. Je consulte le catalogue de l'abysse en ligne. Je cherche vaguement. Je pense que je vais tomber sur le livre sur lequel il me faut écrire. Quel besoin ai-je de chercher, de faire semblant de chercher? Le livre est là, sur ma table. Le volcan. Depuis 2 décennies, je veux écrire le retour d'Yvonne, ne l'ai pas encore fait, ne le ferai peut-être jamais, mais au moins, du moins, rendrai-je hommage comme d'autres écrivains à Lowry et à mes obsessions. Peut-être le signe m'a-t-il fait trembler, plonger à nouveau dans le volcan, y aller, recommencer, partir, embarquer, ce n'est jamais sans risque. C'est une musique syncopée, un poème, une chanson, une tragédie, une comédie, une farce, etc. Il est superficiel, profond, puissant, divertissant, assommant, selon les goûts. C'est une prophétie, une mise en garde politique, un cryptogramme, un film grotesque et un graffiti sur un mur, écrit Lowry dans sa lettre à Jonathan Cape, son éditeur. Le graffiti, je pense à Basquiat, à la sauvagerie de l'art Basquiat, à sa beauté, à sa noirceur, à sa brûlure, à ses couleurs, à son lyrisme, à sa jubilation. Outsider, comme Lowry. Dans la lettre à l'éditeur, lettre qui fait justice à la nécessité du volcan dans son ampleur et sa complexité, et que certains lecteurs, à l'époque, en vue de la publication, contestent, proposant coupes et réductions, Lowry fait avec humour, sans concession, avec orgueil, usage du trop. Parenthèse, énumération, note, renvoi, retour, digression. L'énumération ci-dessus en est un très bref exemple. Et cependant, sa démonstration, chapitre par chapitre, est ferme, sans faille. Lowry écrit ce qu'on ne peut pas contenir, ce qui ne peut se dire en vie minuscule. Michon, grand lecteur de Lowry. Cette langue qui s'emporte et nous avec. Emportement plus que débordement, car Lowry tient. Il tient tout en sa langue, à flux et à flot. Les dérives de phrases ne sont pas sans les syncopes. Métaphore mescalisée encore? Quoi qu'on dise ou écrive de Lowry, certains y verront toujours métaphore de l'alcool, de l'état dans lequel l'ivresse vous met. Mais ce n'est pas ça, la littérature. Ce n'est pas la réplique de l'état euphorique ou déprimé de son auteur. Et personne n'écrit ivre. Même pas Duras, qui dit qu'elle écrivait avec 5 litres de vin par jour. On écrit juste avant de ne plus pouvoir écrire, de ne plus pouvoir quoi que ce soit d'ailleurs. On écrit comme on se cuite, oui, mais cuite, on n'écrit plus. on écrit avec l'alcool, mais vient un moment où on ne boit plus, on n'écrit plus, terrassé. De la même façon, on écrit avec le manque effroyable de l'être aimé, l'ivresse, la douleur du manque. On écrit pour conjurer le manque, pour ne pas l'accepter, pour continuer à faire vivre l'amour. On écrit dans la folie du manque, tant que la folie est une façon d'aimer, de ne pas renoncer, de croire, de faire exister ce qui n'existe plus. On écrit pour que le manque continue. Si le manque continue, le reste continue. No se puede vivir sin amar, dit le consul. Le consul ne lit pas les lettres d'Yvonne, parce qu'il se nourrit du manque, et ce manque prend la forme de l'alcool. On ne mange pas dans le volcan, on ne fait que boire, jusqu'à ce que le masque se déchire. Le manque est univoque. Il est à soi seul et de soi seul. Il n'est pas partagé, contrairement à l'amour. Le manque, comme l'alcool, ne se partage pas. Alors on n'écrit plus parce qu'il n'y a plus d'adresse possible. L'adresse est perdue. Alors le consul meurt, les lettres d'amour qu'il vient de retrouver basculent avec son corps dans le ravin et un chien mort après lui. No se puede vivir sin escribir. No se puede vivir sin beber, peut-on sans doute dire de Laurie. Laurie, lui, ne dit rien. On ne peut pas savoir pourquoi on écrit. On ne peut pas le savoir vraiment, complètement. Écrire consiste à ne pas savoir savoir. Encore une fois, les questions sont sans réponse. Seules les questions permettent de continuer, continuer tout. La seule réponse est la mort et les réponses se tuent. J'avais quoi ? 20 ans lorsque j'ai lu le livre. Et comme tant d'autres, arrêté lors du premier chapitre. Arrêté et entêté à poursuivre, à recommencer donc. Pourquoi les lectrices et lecteurs du volcan sont arrêtés et ne ferment pas le livre une fois pour toutes ? Il y a des arrêts qui entêtent. Cela ne m'était jamais arrivé alors, et cela ne m'est plus jamais arrivé avec un livre. Cet arrêt n'est pas un arrêt de l'intellect. Ce n'est pas parce que le premier chapitre est complexe narrativement. Ce n'est pas qu'on s'y perd, ou bien si l'on s'y perd, c'est parce qu'on s'y retrouve. Ce qui nous arrête, c'est ce pressentiment fulgurant qu'entrer plus avant dans le livre, c'est vivre un vertige. C'est aller à la rencontre d'un soi jamais éprouvé, comme un amour, ou plutôt comme dans une passion. L'instant d'avant le basculement, ce qui précède le premier baiser, le premier corps à corps. Il y a un suspens extraordinaire, un arrêt du cœur et de la pensée. Le corps cesse pendant quelques secondes de fonctionner, apnée, silence, éblouissement, commotion. Le premier chapitre du volcan nous met à l'épreuve de la passion. Ira-t-on ou pas ? Je n'ai pas été saisie par l'obscurité ésotérique du volcan, je n'y crois pas. L'obscurité existe, elle est ontologique. Elle est ce trou dans lequel nous descendons ou pas. Ce trou que la littérature offre comme aventure. Ce trou est en nous. Nous en venons sans le savoir. Il est le lieu d'où viennent nos actes les plus décisifs, les plus violents, les plus inespérés. Trou de la passion et de la grâce, trou de l'enfer, barranca du volcan. Ce qui nous arrête est une épiphanie, littéralement manifestation d'une réalité cachée. Le volcan vous fait cela, il vous révèle à vous-même. Des décennies après, si chaque amoureuse ou amoureux du volcan relit le livre au chemin de sa propre vie, elle, il y verra un jeu de miroirs, de toute nature et forme possible. Miroir des gouffres, car toujours l'image qui nous révèle est sans fond, d'où le saisissement, d'où la peur, d'où l'attraction absolue. Ce qui vous arrête peut le faire longtemps, voire toujours. Ce qui vous arrête ressemble à l'effroi qu'éprouve le consul. Laurie emploie le mot « terreur ». Anne-Marie Gara dit que le mot « terreur » est celui qui revient le plus souvent dans le volcan. La terreur est peut-être la reconnaissance de l'effroi. L'effroi arrête, suspend. La terreur saisit le corps d'un frisson qui le tord, le fait plier. Il y a des formes à la terreur. Le consul multiplie les rencontres terrorisantes. Peano, mort au bord de la route, les mains en sang, coma alcoolique, cheval emballé, hallucinations auditives et visuelles, combat avec la solitude, les cauchemars, etc., corps à corps avec la terreur. L'alcool n'en est que le masque. La rupture amoureuse, l'occasion. La situation, dirait-on au théâtre. Mais je vais dire l'occasion. L'occasion dont on se saisit, qu'on a cherché inconsciemment, parce qu'elle vous met en état de transe, et qu'il faut la transe pour s'enfoncer en soi, pour aller dans le trou. Je ne parle pas de Laurie, mais du consul. De la lettre à Yvonne que Jacques Laruelle, dans le chapitre 1, chapitre qui retourne le roman comme un gant, retrouve dans un livre de pièces élisabéthaines que lui avait prêté le consul, un an après sa mort et celle d'Yvonne. Longue lettre en écho à la carte postale d'Yvonne égarée, qui a traversé plusieurs pays et que le consul reçoit enfin alors qu'elle est revenue. C'est au chapitre 7, l'un des 11 qui suivent et couvre 24 heures dans la vie de Geoffrey Fermin, le consul, et de sa femme Yvonne après le retour de celle-ci. Je vais vous lire un bout de la lettre. Nuit. Et une fois de plus, le corps à corps nocturne avec la mort, la chambre trépidante d'orchestre démoniaque, les bribes de sommeil apeurées, les voix à la fenêtre dehors, mon nom répété sans cesse avec mépris par des groupes d'arrivants imaginaires, les clavecins de la ténèbre. Comme s'il n'y avait pas assez de vrai bruit dans ces nuits couleur de cheveux gris. Non tel que le fracas déchirant des villes d'Amérique, le bruit de pansements arrachés à d'immenses géants à l'agonie. Mais les chiens parias qui hurlent, les coqs qui annoncent l'aube toute la nuit, le battement de tambour, le gémissement qu'on retrouve plus tard, blanc monceau de plumes sur les fils télégraphiques aux arrière-jardins, ou volailles perchées dans les pommiers, la peine éternelle qui jamais ne dort du grand Mexique. Pour moi, j'aime traîner ma peine à l'ombre des vieux monastères, ma faute dans les cloîtres, au bas des tapisseries et dans les miséricordes d'inimaginables cantines, où des clients tardifs à la triste figure et des mendiants en cul de jatte boivent à l'aube, dont la froide beauté jonquille se redécouvre en la mort. Aussi, quand tu partis, Yvonne, j'allais à Oaxaca. Pas de plus triste mot. Te dirais-je, Yvonne, le terrible voyage à travers le désert, dont le chemin de fer à voie étroite, sur le chevalet de torture d'une banquette de troisième classe. L'enfant dont nous avons sauvé la vie, sa mère et moi, en lui frottant le ventre du tequila de ma bouteille. Ou comment, m'en allant dans ma chambre en l'hôtel où nous fûmes heureux, le bruit d'égorgement en bas dans la cuisine me chassa dans l'éblouissement de la rue, et plus tard, cette nuit-là, le vautour accroupi dans la cuvette du lavabo. Horreur à la mesure de nerfs de géant. Non. Mes secrets sont de la tombe, ils doivent être tus. Et c'est ainsi parfois que je pense à moi-même comme à un grand explorateur qui, ayant découvert un extraordinaire pays, n'en peut jamais revenir pour faire don au monde de ce savoir. Mais le nom de ce pays est Enfer. Ce n'est pas au Mexique, bien sûr, mais dans le cœur. Et aujourd'hui, j'étais à Caonahuac, comme d'habitude, quand j'ai reçu de mon avoué l'annonce de notre divorce. Cela, je me le suis attiré. J'ai reçu d'autres nouvelles aussi. L'Angleterre rompt les relations diplomatiques avec le Mexique et tous ses consuls, ceux qui sont anglais s'entend, sont rappelés au pays. Ce sont de bien braves gens, la plupart, au bon renom desquels je porte atteinte, je suppose. Je ne rentrerai pas au pays avec eux. J'y rentrerai peut-être, mais pas en Angleterre, pas en ce pays-là. Alors à minuit, j'allais dans la Plymouth voir à Tomaline mon ami le Tlacaltecan Cervantes, l'amateur de combat de coq au Salon Ophelia. Et de là, je suis venue au Farolito de Parian, où me voici maintenant, assis dans une petite salle à l'écart du bar à 4h30 du matin, en train de boire de l'ocha, c'est plus du mezcal, et d'écrire ceci sur du papier à lettres que j'ai chipé au Bella Vista l'autre nuit, peut-être parce que celui de consulat, ce tombeau, me blesse la vue. Je crois connaître assez la souffrance physique, mais c'est le pire de tout, de sentir son âme mourir. Je me demande si c'est parce que ce soir mon âme est vraiment morte que j'éprouve pour l'instant quelque chose comme la paix. Ou est-ce parce qu'il existe droit à travers l'enfer un sentier comme Blake savait bien et que sans le prendre peut-être ses temps derniers parfois en rêve j'ai pu le voir. Et voici un effet bizarre sur moi de ce que l'avoué m'a appris. Il me semble voir maintenant entre les mescales ce sentier et au-delà d'étranges perspectives telles des visions d'une nouvelle vie commune que nous pourrions mener quelque part. Il me semble nous voir vivre en quelques terres nordiques de collines et de montagnes et d'eau bleue. Notre maison s'élève au bord d'une passe et un soir nous sommes debout là, heureux l'un de l'autre, sur le balcon de cette maison regardant l'eau. Il y a là-bas des scieries à demi cachées par les arbres et au pied des collines sur l'autre rive de la passe, ce qui semble une vieille raffinerie à pétrole mais que la distance estompe et rend belle. Plusieurs mescales plus tard. Depuis décembre 1937 et que tu es parti, et c'est maintenant le printemps 1938, à ce que j'entends, j'ai délibérément lutté contre mon amour pour toi. Je n'osais m'y soumettre. Je me suis agrippée à toutes les branches ou racines qui pouvaient m'aider à franchir tout seul cet abîme dans ma vie, mais je ne puis me leurrer plus longtemps. Si je dois survivre, il me faut ton secours. Autrement, tôt ou tard, je tomberai. Ah, si seulement tu m'avais laissé dans la mémoire de quoi te haïr, en sorte qu'à la fin, nulle douce pensée de toi ne me touche jamais dans mon affreuse situation. Mais au lieu de cela, tu m'as envoyé ces lettres. Mais au fait, pourquoi envoyer les premières à Wells Fargo, Mexico? Se peut-il que tu n'aies pas compris que j'étais toujours ici? Ou que, si j'allais à Warrak, Kaonawak demeurait ma base? C'est très curieux. Puis ça aurait été si facile de se renseigner. Et si seulement aussi tu m'avais écrit sur le champ, ça aurait pu être différent. Même une carte postale à mon nom, dans la commune angoisse de notre séparation, qui en eût appelé simplement à nous, en dépit de tout, pour mettre aussitôt fin à cette absurdité de n'importe quelle façon et disant que nous nous aimions. Ou autre chose, un télégramme de simple. Mais tu as attendu trop longtemps. Oui, il le semble maintenant, jusqu'après Noël. Et le nouvel an. Et ce que tu as envoyé alors, je n'ai pu le lire. Non. À peine ai-je une fois été assez libérée de mon tourment, ou assez dégrisée, pour saisir plus que le sens général de l'une ou l'autre de ces lettres. Mais les sentir, je le pouvais. Je le peux. Je crois en avoir quelques-unes sur moi, mais elles font trop mal à lire, comme trop longuement ruminées. Je n'essaierai pas à présent. Elles me brisent le cœur. Et de toute façon, elles sont venues trop tard. Et maintenant, il n'y en aura plus, je suppose. Je pourrais continuer, mais je crains d'être trop long. Le volcan est un face-à-face dont on ne cesse de se détourner. Vérité qui est aveugle. Ce n'est pas par hasard que la terreur, l'une des deux émotions tragiques avec la pitié, l'habite. Cette occasion d'aller voir notre visage nu, que ce soit dans la monstruosité d'un acte assassin ou dans la dissolution d'une passion amoureuse. Qu'est-ce donc qui, pour une lectrice de 20 ans, attire, saisit, emporte? Sans doute qu'un tel effroi, que ce vertige ne s'appréhende qu'au fait de la vitalité, face cachée de l'exubérante jeunesse. Alors, on n'a pas peur de se frotter à la mort, de la défier, de la regarder les yeux dans les yeux. Quand Laurie commence le volcan, il a 28 ans. Il en a 38 lorsqu'il le termine. Il en a 48 quand il meurt, d'un mélange d'alcool et de barbiturique qui n'est pas forcément un suicide. Je partage l'opinion de Pierre Michon qui dit « La bouteille de gin était cassée, il n'y avait plus d'alcool à la maison, il était déjà sous et voulait continuer à se défoncer. Il a donc continué au Nimbutal. Il est mort dans cette jouissance extraordinaire que donnent les barbituriques. Il n'a pas pu s'arrêter. 1937, 1947, 1957. En 1927, il avait embarqué à bord du Pyrrhus pour l'Extrême-Orient. Il avait 18 ans. Laurie n'a pas eu le temps de vieillir. C'est un homme jeune qui écrit le volcan. Sa santé est solide. Il a un corps athlétique. Il se baigne chaque jour dans l'eau froide du Pacifique qui jouxte leur cabane de Dollarton à côté de Vancouver. Il encaisse l'alcool comme un boxeur. C'est un homme au fait de ses moyens. Le consul peut parfois susciter notre pitié, pas Laurie. C'est le leurre littéraire, la feinte, la fiction. Je ne sais pas à quoi ressemblait le rire de Laurie. Tonitruant, un grand rire, forcément, déployé. Le consul se marre autant qu'il a peur. Reste la question du sexe, du baiser, du jouir. Que fait le consul de sa puissance sexuelle? L'absence d'Yvonne est physiquement cruelle, insupportable, une autre terreur. Où calmer cette soif physique qui peut rendre dingue un homme, une femme jeune? Laurie, quand il écrit une nouvelle version du volcan en Colombie-Britannique, n'est plus seul. Il y a Marjorie Bonner avec lui, sa deuxième femme. Il a peut-être vécu cela, ce manque sans borne, dans l'absence de Yann Gabriel, sa première femme, la première avec laquelle il découvrit le Mexique, celle qu'il poursuivit d'Espagne, en France, au Mexique, en Amérique, celle qui le quitta. Il avait commencé à écrire le volcan, celle qui figure le modèle d'Yvonne. Il n'y a pas de scène de sexe dans le volcan. Laurie n'écrit pas le sexe, à peine le désir, la séduction, pas la jouissance. Il écrit le sexe en négatif, il écrit le manque. Il serait trop facile de dire que le sexe du volcan, c'est l'écriture. Dit comme ça, c'est simplifiant, mais ce n'est pas faux. On sait par d'autres, Guyotin notamment, mais pas que, et par soi-même, qu'on écrit dans la dépense et la perte. Écrire est organique et orgasmique. Les vagues successives, l'avant, le pendant, l'après. Tout ça est tension. Tout ça est rythme. Tout ça est dénouement. Tout ça va de l'intérieur à l'extérieur. Tout ça ne s'explique pas. Ça a lieu, ça se fait. La puissance de l'écriture du volcan, sa roue infernale, n'oublions pas que ce livre représentait l'enfer d'un cycle dantesque qu'il n'écrivit pas. Ses bifurcations, ses égarements, ses errances, sa construction, son effet de recommencement. Quand on termine le livre, on relit le chapitre 1, on relit la lettre, et la tentation est grande de repartir. La quête du volcan ne se termine pas, elle s'interrompt par la mort. L'écriture et la lecture peuvent la reprendre sans fin, interminablement, comme l'écrit Jacques Roman d'une lettre d'adieu déchirée, recommencée. Pierre Michon dit « Je crois que le but de Laurie dans l'alcool comme ailleurs était la jouissance. » Je ne sais pas si c'est vraiment un but. La recherche effrénée de la jouissance dit le désespoir, dit l'impossibilité de jouir, la remise à plus tard, un plus tard, toujours plus tard, expression répétée du consul. L'alcool promet et ne tient pas. Ou plutôt, l'alcool promet et le corps ne tient pas. C'est une parabole assez juste de la vie et de l'être humain. Michon dit encore, c'est un langage de jouissance. Je partage ce sentiment, mais de fait, la langue est jouissance. Écrire est un jouir. Ce n'est pas un hasard si dans le volcan, l'amour est à son plus haut quand il s'écrit dans les lettres. Lorsqu'il se vit, l'amour est déceptif. C'est ainsi dans l'amour-passion. Laurie n'a pas inventé cela. Les poèmes et œuvres de l'amour courtent. Le fin amour en avait déjà au Moyen-Âge fait leur miel. La langue fait monter le désir. La langue a la puissance de la chair. Dans le même temps, elle l'évacue. C'est toute la question du rapport entre la littérature et le réel. C'est aussi une manière d'aborder le rapport de la vie vécue et du roman. Est-ce que les lettres, même pas envoyées, se suffisent à elles-mêmes? Est-ce que l'écriture suffit? À qui suffit-elle? Se suffit-elle à elle-même? Est-ce qu'écrire les lettres suffit au consul? Et tenir les lettres d'Yvonne contre lui sans les lire? L'amour est là, dans les lettres. Le corps de l'amour est dans l'écriture. Là, Laurie et son consul se confondent. Là, peut-être que quelque chose de l'écrivain et de ses personnages correspond. C'est sans doute le seul endroit exact de correspondance. Les personnages, les figures, le roman, le texte portent l'exact besoin, l'absolue nécessité de son auteur. Dire ce qui a été vécu si puissamment et que la vie n'a pas pu retenir. Joie, bonheur, jouissance, amour, perte, manque, tout ce qui compte. Les lettres qu'écrit le consul et celles d'Yvonne figurent le sentiment amoureux. Rien de tel qu'écrire une lettre d'amour pour lui donner un visage, pour lui donner réalité. Celle ou celui qui écrit l'amour donne à l'amour mieux qu'il ne lui donne. Là se joue l'idéalisation de l'amour ou du désir. Et il y a dans le volcan, idéalisation de l'amour, ce qui plaît aussi aux lectrices de 20 ans, en tout cas celle que j'étais. Rien de tel que de parler à l'autre et de dire sa souffrance. Rien de tel pour séduire et se séduire soi-même que d'écrire magnifiquement cette souffrance. Rien de tel que, par la beauté de la langue, en faire épanouir les fleurs là où tout est sombre et noir. Rien de tel que la lucidité faite langue pour effacer tous les aveuglements répétés. Et le consul en sait quelque chose, et Yvonne en sait quelque chose. Rien de tel que de mêler les temporalités du souvenir et le présent. Si bien que le souvenir prend air le présent, et prend même sa place. Si bien également que l'autre, absente, a la sensation de rater quelque chose. Rien de tel encore que de raconter légèrement quelques épisodes de la vie, de rappeler à l'autre l'aimer, sa drôlerie, son charme. Et son, ça, désigne l'écrivant comme le ou la destinataire, emblématique des moments heureux passés ensemble. Car l'amoureux, l'amoureuse ne cherche rien d'autre qu'à séduire encore, qu'à charmer encore, qu'à transférer à l'autre le manque, à faire passer mon manque pour ton manque. Rien de tel que les glissements de la langue pour mêler ce qui est mien à ce qui est tien, pour fusionner les désirs, les regrets et unir une fois encore les corps. Rien de tel que la maîtrise de la langue pour créer l'illusion, pour faire croire et continuer à croire ce qui n'est déjà plus. Rien de tel que l'usage de la langue pour faire advenir ce qui n'est pas encore et ressusciter ce qui n'est plus. Rien de tel que les mots pour se passer des actes. Jouissance idéale et jouissance réelle, car la langue atteint le corps. La langue crée du corps, là où le corps est absent. La jouissance du parler amour est une jouissance qui se passe de l'autre. La littérature jouit là où le réel n'est pas. Les lettres dans le volcan sont la part lyrique de l'amour. Leur charge érotique est lyrique, idéale. Cette phrase qui orne la maison de Jacques Laruelle, ancien ami du consul, ex-amant d'Yvonne, « No se puede vivir sin amar », serait purement sentimentale si sa traduction passait seulement dans la correspondance, aussi merveilleusement écrite soit-elle. Mais il y a l'alcool. C'est l'alcool dans le volcan porte la charge sexuelle. Il n'y a pas d'amour-passion sans violence. Tous les grands romans d'amour sont violents, font violence. À vous briser le cœur, comme dit le consul, et le rire rend à l'expression sa réalité concrète. L'écriture de l'ivresse porte cette part violente, la part inapprivoisable de la passion, que les lettres d'Yvonne pourraient tempérer, et c'est sans doute aussi pourquoi le consul ne les lit pas. Il se tient à l'écart de la mesure et de la douceur, d'une douceur possible. Le consul se tient à l'écart de tous les possibles. Il se tient au bord, c'est à ce bord, par essence intenable, que la langue de Malcolm Lowry, dans sa tension périlleuse, nous retient également, au bord et louchant vers l'abîme. Je me souviens de l'abîme, écrit Bernard Noël, dans le texte cité au début de cette déambulation. L'endroit où le manque le tourmente, le renverse et le tue, c'est dans l'alcool qu'il s'incarne. Boire jusqu'à tomber, boire jusqu'à mourir, quelqu'un jeta un chien mort après lui, dans le ravin. Dernière phrase du volcan, L'homme et le chien, l'homme-chien, rien d'autre. L'idéal sombre avec l'animal. Dans Pour l'amour de mourir, il y a ce poème. Si la mort peut voler pour l'amour de voler, est-il rien que la vie pour l'amour de mourir ne plus faire? Vers ironie et Dieu. Ainsi s'intitule un livre de la poète Anne Carson que me fit découvrir Bernard Noël. Le titre va au volcan. Non pour l'alcool que le verre contient, mais pour le verre qui se brise, coupant comme le verre. Quant à l'ironie et Dieu, voici un autre extrait de poème, celui qui clôt pour l'amour de mourir. J'avais écrit dans la sombre caverne de notre naissance. L'imprimeur met taverne, et cela fait plus amène. Mais si j'y, le sujet de notre hilarité, page suivante, on lit la trombe pour la tombe. Peut-être aussi Dieu parlait-il de distraction, là où avec nos si bizarres caractères, nous imprimons destruction. Et cela fait plus amer. Avant de finir, j'aimerais vous raconter comment j'ai perdu et retrouvé le volcan, l'exemplaire qui est là devant moi. En 2001, je fis un voyage au Pérou. 13 ans auparavant, j'avais fait le voyage au Mexique à cause pour grâce au volcan. Seule, j'irais dans les rues de Cuernavaca et passais plusieurs jours dans un trou au pied du Popocatépetl. Peut-être était-ce le Paso de Cortés, attendant que le temps se lève pour que sorte le volcan. Sur un voyage de presque 2 mois, c'est là que je pénétrais un peu le Mexique, à suivre les chiens errants dans la campagne, à me joindre à un cortège d'enterrement, à passer des heures dans la petite église, à manger des tortillas dans le seul café-restaurant du bled, à regarder le ciel, les nuages, à deviner l'ombre du volcan, à lire et relire les descriptions géographiques de Laurie. Il faut ne pas être saoul pour écrire avec cette précision. À me déchirer le cœur à la sensibilité aiguë de Laurie, à son empathie pour le vivant, végétal, animal, humain, pour la vie humiliée dont parle Arnaud Bertina. Et à prier le Popo et l'Ixca de se montrer. 13 ans plus tard, au Pérou, je pris le même genre de car, rempli d'hommes portant chapeaux, de femmes aux jupes et corsages colorés, de cages à poules, dans la musique que le chauffeur mettait à fond, essayant de ne pas regarder les ravins que le car frôlait. Des amis m'accompagnaient cette fois. J'avais décidé de relire le volcan. Je fis tout le voyage péruvien dans l'ombre du volcan. Tout se mixait, se répondait. L'un de mes compagnons de voyage était un homme auquel j'avais écrit une longue lettre d'amour durant ce voyage au Mexique. Nous étions ensemble maintenant, mais nous ne pouvions pas véritablement nous aimer. Il aimait toujours la femme que la mort lui avait ravie. Moi, j'aimais encore un homme que je n'aimais plus, et je lisais le volcan dans les cars, les chambres d'hôtel ou terrasses des cafés. Je lisais cette somptueuse histoire qui dit que l'amour est de toute façon un contretemps. Je compris durant ce voyage que le volcan n'est pas un livre sur l'amour, mais sur la nostalgie de l'amour. Nostalgie qui se conjugue aussi bien au futur. No se puede vivir sin amar, mais l'amour se dérobe toujours. Je buvais des cusqueñas, la bière péruvienne, la seule brune qui vaille la Guinness, et meilleure que la Corona mexicaine. Et je photographiais des bouteilles d'anis del mono, l'une des boissons du volcan. Sur le plan du voyage touristique, le Mexique fit de l'ombre au Pérou à cause du volcan. Mais seul le Pérou pouvait faire un écho au Mexique et trimballer les amours perdus. Mon exemplaire du volcan se frottait à la poussière des routes et jaunissait, avec la photo du film de Huston, se frottait à la poussière des routes et jaunissait dans le filet du sac à dos. Ce jour-là, nous étions partis pour le canyon des Colca, un ravin de 3200 mètres que nous avons descendu et surtout remonté sous un soleil de plomb. Le soir même à l'auberge, je vis que j'avais perdu le volcan. Cela me mit dans un état de panique. Je savais que je n'allais pas pouvoir me rendre à la librairie du coin. Un état disproportionné, mais à la mesure de la démesure du livre. Saoul de fatigue, sauvé par l'escalade du canyon, je dormis. Le lendemain, nous reprenions un car à Cabana Conde. Nous étions à peine installés qu'un grand brouhaha se fit autour de nous. Nous indiquions la cause sans savoir pourquoi. Plusieurs cars stationnaient dans la poussière rouge, il faisait déjà chaud, je tirais la gueule, je n'avais pas d'autres livres et je ne voulais rien lire d'autre que le volcan. Le moteur ronflait quand soudain on frappa aux portes, on cria. Un homme monta et se fraya un passage jusqu'à moi. Il avait mon exemplaire du volcan dans les mains. Je l'aurais embrassé si je n'avais pas été sonnée par l'apparition du volcan et si l'homme, dans un magnifique sourire, n'avait pas aussitôt fait demi-tour. C'était comme un miracle, ce livre est un miracle.